at the knee.
I used to be an adventurer like you, and I took an arrow in the knee.
That loser didn't stand a chance!
You were almost a jibbled sandwich.
Hey, listen!
Heroes never die.
Caught one.
The edge of the universe and back. Endure and survive.
Killing you and giving you good advice aren't
nothing is true. Everything is permitted.
Do a barrel roll.
Oh, cool, you tie.
Well, this is a tomb. I'll make them feel at home.
This is my favorite store in the Citadel.
Objection!
This world is mine.
What did I say?
Wait. That's not how it happened.
Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans Une heure et des pixels. Une émission réalisée par l'association Pixel Up, diffusée sur Radio Campus Paris et produite grâce aux subventions de l'Université Sorbonne Nouvelle. Ce mois-ci, pour nous parler d'horreur et dans le jeu vidéo, on reçoit Guillaume Béchelier, docteur en art, chercheur associé à l'Université Bordeaux-Montaigne, vidéaste mais aussi podcaster, Artefact, la saveur de la finitude, et enfin auteur sur le jeu vidéo Semmelweis, actuellement en développement. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Salut Guillaume.
On te retrouvera donc tout à l'heure pour un entretien qui parlera de tes recherches, de caméras première et troisième personne, et enfin d'horreur cosmique, en espérant que l'horreur vienne plus de toi que des questions incisives de Jean, qui mènera l'entretien. Bonsoir Jean.
Pas trop de moi non plus.
Salut H.
Mais avant ça, vous retrouverez les chroniques habituelles de l'émission, en commençant par parler de jeux vidéo et littérature avec Lys, qui évoquera The Wolf Among Us. Bonsoir Lys.
Bonsoir.
Ensuite, vous n'y échapperez pas, ça sera notre segment Elden Ring. On parlera d'abord du sujet récurrent des Souls, de la difficulté, avec Alexandre. Bonsoir Alexandre.
Salut.
Puis Beyond reviendra sur le monde ouvert du jeu, qui a aussi beaucoup fait couler d'encre. Bonsoir Beyond.
Bonsoir.
On enchaînera sur l'entretien, la pause musicale, puis viendra ma chronique, où on lancera l'international et on se demandera si le AAA est contre le peuple. Et enfin, Jean animera le blind test. Quel sujet est-ce que tu as choisi ce mois-ci ?
Ce mois-ci, comme on l'avait annoncé d'ailleurs au dernier numéro, je crois, ça sera les jeux d'enquête. 5 morceaux, c'est trop court, j'aurais voulu en mettre plus, mais voilà, j'ai choisi avec soin mes petits extraits, donc j'ai hâte de vous faire écouter ça.
C'est clair que c'est un genre qui est prolifique. Eh bien, commençons tout de suite avec la chronique de Lys. Lys, je te laisse la parole.
Aujourd'hui, je vous parle d'un de mes jeux préférés, que j'ai refait plusieurs fois, et même très récemment pour mon plus grand plaisir, et pour le bien de l'émission, bien sûr. Il s'agit de The Wolf Among Us. Sorti entre 2013 et 2014 sous format épisodique, il est développé et édité par Telltale Games, connu pour leurs adaptations de comics comme The Walking Dead ou Batman. Et le jeu dont je vous parle ne fait pas exception à cette règle, puisqu'il est lui aussi tiré d'un comic. The Wolf Among Us est une libre adaptation de la bande dessinée Fable, créée et écrite par Bill Willingham, accompagné de plusieurs illustrateurs, tout au long de sa publication, entre 2003 et 2015. Fables, ou plutôt les fables, forment une communauté constituée de personnages provenant de légendes, de comptines, d'histoires et de contes de notre enfance. Chassés de leur royaume par un mystérieux ennemi, nommé l'adversaire, ils se sont réfugiés parmi les hommes à New York. Les fables ayant une apparence humaine peuvent prétendre se fondre dans la masse, les autres, cochons parlants, géants ou gnomes, sont forcés de vivre à l'écart dans un endroit appelé la ferme. Les fables peuvent aussi se procurer des enchantements trompe-l'œil pour prendre une forme humaine, mais ces charmes sont très coûteux, et nombreux sont celles et ceux qui ne peuvent en obtenir. On croisera ainsi successivement Blanche-Neige, le grand méchant loup nommé Bigby, et devenu shérif en quête de rédemption, Barbe Bleue, Boucle d'Or, La Belle et la Bête, le prince charmant, finalement pas si charmant. Fable nous plonge dans un univers riche de personnages, mais qui n'a rien d'un conte de fées. Willingham s'inspire plutôt des romans noirs, et malheureusement de la misogynie qui va avec, dénonce les inégalités sociales au sein des fables et revisite toutes sortes d'histoires, comme par exemple La ferme des animaux de George Orwell, avec une boucle d'or révolutionnaire. Dans l'adaptation, on suivra de nouveau Bigby et Blanche-Neige comme personnages principaux. Blanche-Neige est adjointe au maire de Fableville et Bigby est shérif. Il s'assure notamment que tous les fables se dissimulent au regard des humains grâce au trompe-l'œil. Dans cette aventure narrative, nous allons devoir enquêter sur le meurtre d'une jeune femme que nous venions à peine de rencontrer, Faith. À grand renfort de dialogue, d'interaction avec l'environnement et de quelques QTE, The Wolf Among Us est un point and click très classique, mais pour le moins efficace, où, attention, tenez-vous bien, nos choix auront des conséquences sur le déroulement du scénario. L'histoire qui est racontée est inspirée d'une des premières qui survient dans le comic, dans le livre 1, appelé « Légende en exil ». On enquête sur la disparition sanglante de Rose Rouge, la sœur de Blanche-Neige. Plusieurs suspects se succéderont, Jack, l'amant de Rose, ou encore Barbe Bleue. Dans The Wolf Among Us, l'enquête pour trouver le meurtrier de Faith sera l'enjeu principal. Bien que son histoire soit inédite, on retrouvera plusieurs éléments de l'intrigue du comic. Les inégalités entre fables, avec une mairie incapable de subvenir aux besoins de ses citoyens et citoyennes, les problèmes financiers de la Belle et la Bête, habituée à un train de vie élevé, ou encore l'attrait du pouvoir chez Barbe Bleue. Pour parvenir à nos fins, il faudra trouver des indices dans l'environnement, écouter les témoignages des fables, déceler les mensonges, mais aussi parfois régler les problèmes de façon plus musclée. Les chara-designs sont très proches de l'œuvre originale, on identifie vite les personnages que l'on croise. On trouve aussi une grande fidélité dans les décors de l'aventure, certains sont repris à l'identique, comme le bureau de Blanche-Neige ou la résidence des fables, les Woodlands. La ferme, bien que souvent évoquée, ne sera pas directement représentée. On la retrouvera sur un tableau, reprise à l'identique de la bande dessinée. Le jeu regorge de petits détails dans le genre. Il y a par exemple un tableau avec le petit chaperon rouge chez Bigby, comme un rappel de ses précédents actes. Au début du jeu, quand il rentre chez lui, il trouve Colin qui squatte son fauteuil et qui n'est autre qu'un des trois petits cochons. On a une scène quasi identique dès les premières pages de la bande dessinée. Si visuellement les œuvres se ressemblent, le jeu choisira cependant des couleurs encore plus vives et contrastées. Il adopte également son fameux cel-shading, une technique marquant les contours des personnages et donnant un rendu un peu cartoon. Elle fait partie de l'identité du studio et correspond très bien à cet univers de comics. Petite anecdote amusante, The Wolf Among Us a lui-même été adapté en bande dessinée à son tour en 2015. La boucle est bouclée. J'aime énormément l'univers et les personnages que l'on rencontre dans The Wolf Among Us, et j'ai eu un immense coup de cœur quand j'ai découvert ce jeu pour la première fois en 2016. Et j'ai longtemps attendu une suite. Eh bien sachez que ce n'est plus une légende urbaine, car depuis février 2022, The Wolf Among Us 2 a enfin son trailer et est aujourd'hui prévu pour 2023. J'ai hâte de découvrir ça. Merci de m'avoir écouté.
Déjà, je voulais remercier Lise pour la chronique, qui était très cool, parce que moi aussi, c'est un des jeux, un gros jeu du cœur. T'as à peu près tout dit sur tout ce qui est trop bien dans ce jeu. Quand je pense au jeu, j'ai beaucoup de souvenirs, notamment de son ambiance, de ses musiques, et aussi de tout l'espèce de mystère qui plane, notamment sur le passé de Bigby, t'en as parlé rapidement. Et il y a beaucoup de choses qui sont cachées, qui sont dévoilées au fur et à mesure du jeu, qui justement font une belle tension, qui fait qu'en plus d'adapter le comics fable, arrive à bien... garder cette esthétique et cet esprit des films noirs et tout ce qui en suit derrière, je trouve.
Ouais, puis ce qui est amusant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnages et quand on les rencontre, on se demande qui vient de quelle histoire, de quel conte. Il y a aussi ce petit côté un peu découverte parce qu'on ne reconnaît pas tout de suite tous les personnages. Donc
Oui, c'est pas clair tout de suite. En fait, c'est ça qui est cool, c'est que vraiment on se dit, attends, mais lui, c'est qui? Et après, on se dit, ah purée, c'est la bête, mais la bête, elle a humain. Enfin, c'est la première découverte du jeu est vraiment très marquante.
Et on passe à Alexandre, qui va nous parler de la difficulté d'Elden Ring.
Merci, H. Et effectivement, j'ai décidé de vous parler d'Elden Ring aujourd'hui. Déjà parce que c'est dans l'actualité, et c'est quand même sympa de parler d'un jeu qui vient de sortir. Et ensuite, parce que je l'ai fini. Moi, le gars qui sait pas faire la différence entre RB, LT, RT et LB, j'ai fini et j'ai même platiné Elden Ring. Et pour reprendre le jeu de mots d'un bon copain, moi, les jeux From Software, ça me saoule. Et pourtant, je vous enjoins toutes et tous à jouer à Elden Ring, ou au moins à essayer. Faites-le vous prêter, collectivisez, vous me voyez pas mais je fais des guillemets avec les doigts, vous-même vous savez. Enfin juste, essayez. Essayez parce que From Software a cette réputation de studio qui ne crée que des jeux à la difficulté insurmontable. Des jeux tellement inaccessibles que les fanboys sont une espèce de confrérie du Git Good qui se masturbent entre eux en méprisant celles et ceux qui n'y arrivent pas, ou du moins qui n'y arrivent pas pour l'instant. Mais une telle communauté n'est en réalité pas une majorité. Si vous n'avez jamais joué à un From Software parce que ça vous fait peur, et c'était mon cas, à part Sekiro que j'ai abandonné au boss de fin, cette immense merde, je vous enjoins à jouer à Elden Ring en parcourant les forums, en parcourant Twitter, en voyant toutes ces personnes qui, comme vous, découvrent l'univers de From Software et suivent les conseils de joueurs et joueuses plus aguerris. Mais par pitié, ne suivez pas les autoproclamés spécialistes des Soulsborne qui disent quand même souvent des bêtises. Sinon, vous pouvez y jouer tout simplement en ne lisant rien et en découvrant tout par vous-même. Et pour moi, c'est là qu'il faut vraiment s'accrocher. Parce qu'on nous a habitués à suivre, et ce même dans les mondes ouverts, des sentiers assez gros pour être visibles. On nous a habitués à des scénarios limpides et manichéens, à des personnages principaux loquaces et charismatiques. From Software, et depuis longtemps, n'en a tout simplement rien à foutre. Le lore est caché dans les descriptions des objets, l'infin du jeu vous laisse dans une interrogation, est-ce que j'ai fait le bon choix? Dans les jeux From Software, et particulièrement dans Elden Ring, vous êtes lâché dans un monde hostile, jusque dans ce qu'il raconte de lui-même. Et ça, après une ère de monde ouvert Ubisoft, c'est pour moi le premier mur. Le second mur, bien sûr, c'est la dite difficulté des combats. On sait bien que From Software s'est fait une réputation avec les Dark Souls, avec Bloodborne puis Sekiro, de proposer des jeux où on meurt souvent. Et ça n'est pas une fatalité, puisque là où j'ai particulièrement aimé Elden Ring, c'est qu'il y a autant de façons de jouer que de joueurs et joueuses. Et je ne dis pas ça à la légère, le jeu vous propose vraiment de très très nombreuses façons d'arriver à vos fins. Il y a l'attaque brute, la magie, les invocations de PNJ pour vous aider, les invocations d'autres joueurs plus puissants même, et parfois même tout ça en même temps. Il n'y a pas de bonne façon de jouer, il n'y a que celle qui vous fait plaisir, qui vous fait rire, qui vous amuse. Parce que c'est de ça dont il s'agit en réalité, de s'amuser. Alors bien sûr, le jeu a des problèmes, votre plus grand ennemi sera la caméra, certains boss, voire certaines zones, sont designés de façon, soyons honnêtes, complètement débile, mais si vous accrochez assez pour vous amuser, en prenant votre temps, allez-y et vous verrez que ça ne sera que 100 heures de bonheur.
Merci Alex. Du coup, Beyond, tu voulais réagir ?
Tout à fait, je te rejoins totalement sur le conseil de lancez-vous, n'ayez pas peur, parce que moi aussi, j'étais dans ce cas-là de... J'avais trop peur de me dire « Ah, ça y est, ça va être insupportable et c'est trop dur. » Et en fait, je vais pas mentir, au début, il y a quand même un côté très déstabilisant. Et en fait, il y a vraiment cette idée, comme t'as dit, de mur. Et une fois que t'as franchi le mur, une fois que t'as compris le jeu, vraiment, il y a vraiment un déblocage. Moi, je me souviens d'un... Ça m'a fait ça, moi, mon premier vrai From Software, c'était Bloodborne. Et j'avais eu vraiment un déclic sur un boss, et une fois que j'ai compris comment le battre, j'ai entre guillemets compris le jeu, j'ai compris comment les développeurs voulaient qu'on joue. Et je trouve qu'Elden Ring arrive parfaitement à aider plus que les autres le joueur sur, et la joueuse sur d'autres manières de jouer, des cendres, de la magie. On peut jouer comme on veut, et ça c'est trop cool. Et par contre, je confirme, moi, LTRT, RB, je sais pas quoi, sur la manette, j'y arrive pas non plus. Hein.
Déjà, merci pour la chronique. C'est un jeu, moi, je l'ai pas encore fini, je suis encore dedans, et vraiment, enfin, voilà, je retrouve beaucoup de choses sur ce que j'apprécie dans le jeu. Et je voulais juste revenir sur une petite chose qui m'a fait réagir à ça, c'est que c'est assez marrant dans les médias, même spécialisés, le fait que, à chaque fois qu'on parle de From Software, on réduit ça à, en gros, à l'arc. Demon's Souls jusqu'à Elden Ring, en gros tout le travail de Miyazaki, parce que c'est un studio qui est bien plus vieux que ça et qui a beaucoup de jeux à son actif, dont notamment des jeux d'horreur comme Kuon ou Echo Knight, enfin la série Echo Knight qui a trois épisodes, et ils ont des tonnes de trucs. Si vous allez jeter un coup d'œil sur la page Wikipédia, il y a une tonne de choses vraiment dans des styles très différents. Bon, alors il y a Kingsfield qui revient parfois parce que c'est un peu c'est leur tout premier jeu, c'est un peu le grand ancien qui vers lequel se tournent les Souls, mais c'est assez marrant de voir à quel point cette série de jeux a une emprise même sur le studio, parce que maintenant on résume le studio à cette série alors qu'en fait elle est très récente dans l'histoire du studio.
D'ailleurs il y avait un vidéaste qui s'appelle Thor High Hills sur YouTube qui avait fait une vidéo très très cool sur des vieux jeux de From Software un peu étranges, et ouais, c'était ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un œil. Perso, je voulais... Comment dire ça ? Je voulais réagir sur un truc, parce que, ouais, dans Elden Ring, il y a un truc qui m'a... Il y a un passage que je trouvais vraiment intéressant, justement, par rapport à tout le discours qu'il y a autour de la difficulté. C'est, comme tu le disais dans ta chronique, les jeux... Enfin, comment dire ça ? Les Soulsborne, c'est vraiment des espèces de grandes boîtes à outils où tu peux piocher un peu plein de mécaniques différentes et qui te permettent d'assaisonner un peu tout ce que tu fais, voire parfois de cheater complètement les boss ou d'invoquer des gens beaucoup plus puissants que toi et de t'aider là-dessus. Et en fait, je trouve ça rigolo comme ce discours du Git Good, il se soit vraiment développé autour de « il y a une façon de jouer ces jeux » qui est la vraie et qui est celle qui est voulue. Et c'est aussi beaucoup ce qu'on retrouve dans les récits d'expérience, de « t'es seul contre ce monde hostile », etc. Alors que, on a l'impression quasi que le fait de jouer à plusieurs, par exemple, d'invoquer des gens, ça casse ce côté seul, et ça rend le jeu un peu rigolo. Et ce que je trouvais assez rigolo, c'est justement que dans Elden Ring, t'as plein de façons dont c'est cassé, avec l'open world qui justement vient rajouter plein de couches à ça. Et puis, t'as même un boss qui s'appelle Radahn, il me semble. Très léger spoiler, mais tout le combat du boss, tu te retrouves juste à invoquer une dizaine de persos différents et à taper le boss tous ensemble. Et c'est et le tout le... Comment dire ça
tout le niveau du boss est pensé en étant une grande plaine qui s'étend et où tu vois des dizaines de combattants qui courent ensemble et tout. Et c'est vraiment pensé pour justement, enfin c'est vraiment un moment qui casse complètement cette soi-disant expérience centrale des Souls d'être tout seul et qui vient raconter une histoire complètement différente et qui montre un peu, je trouve que ouais, au final les Souls, bah c'est des grosses boîtes à outils, t'en fais un peu ce que tu veux et les histoires qui en émergent sont pas forcément les mêmes et c'est tant mieux.
Radahn, c'est brillant. Ce qu'ils ont fait, ils rompent eux-mêmes les règles de leur propre jeu, mais de manière vraiment, c'est pas du troll, c'est vraiment juste un recours qui donne un souffle absolument épique au jeu. Et là, j'en suis à 80 heures, j'ai pas tout vu encore, mais c'est clairement pour l'instant le boss que j'ai préféré. Parce que c'est voilà, il y a un truc vraiment qui est, ça montre à quel point ils sont malins et à quel point ils savent ce qu'ils font. Le fait qu'ils aient retourné comme ça, ils nous retournent comme des crêpes et ça marche très très bien.
C'est surtout le boss qui nous retourne comme des crêpes.
C'est sûr.
Et on continue de parler d'Elden Ring avec Beyond.
Merci. Eh ben écoutez, oui, on va encore parler d'Elden Ring. Désolé, mais voilà, c'est une évidence. Le jeu, il cartonne. C'est clairement un des jeux mémorables de 2022, et on entend déjà énormément de choses à son propos, et notamment le fait qu'il va marquer les futurs mondes ouverts. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Car même si j'adore le jeu et son monde ouvert, il y a quand même quelque chose qui m'a titillé tout au long de mes sessions. Bon, je vais essayer de poser ça rapidement. Pourquoi le monde d'Elden Ring est-il si mémorable? Bon alors déjà, on va être clair, la direction artistique du jeu est magnifique. Elle propose des environnements exceptionnellement marquants. Des châteaux gigantesques, des villes remplies de chemins tortueux, et bien d'autres. Mais on va pas trop parler de ça, car le mot qui revient le plus souvent, c'est l'exploration du monde. En effet, beaucoup de personnes affirment leur plaisir à explorer dans Elden Ring, contrairement à un autre monde ouvert, à la Ubisoft par exemple, pour ne citer que. Et c'est vrai qu'il y a des différences. Mais à titre personnel, je pense que ces mondes ouverts, à la Ubisoft, ont été construits pour être visités, plutôt qu'être explorés. Typiquement, Assassin's Creed Origins propose une Égypte immense dont l'intérêt n'est pas totalement d'explorer, mais plutôt de visiter le joli monde créé par les designers, avec les pyramides et les monuments égyptiens. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. La fonction du monde ouvert n'est pas la même ici que dans Elden Ring, donc je trouve pas la comparaison totalement pertinente. Parce que le dernier jeu de From Software est effectivement un monde à explorer. Mais ça veut dire quoi exactement explorer ? Pour ma part, je pense que ce qui démarque Elden Ring est similaire à Breath of the Wild. On a beaucoup entendu des comparaisons entre ces deux jeux, et je vais quand même pas trop m'avancer puisque j'ai pas fait le second. Mais je pense déjà noter quelques différences, car j'ai l'impression que Zelda se concentre particulièrement sur la liberté d'action pour résoudre des problèmes, et sur une construction d'un monde différent, avec par exemple un boss final accessible directement après le tuto. Mais alors pourquoi la comparaison avec Zelda revient-elle si souvent ? Eh bien selon moi, c'est parce que dans les deux cas, le jeu fait confiance aux joueurs et joueuses pour l'explorer. C'est dans la droite lignée de ce que faisait From Software auparavant. Le jeu n'indique jamais vraiment où aller sur la carte, il n'y a pas de marqueur autre que ceux que l'on peut mettre. On devine vers où aller en parlant à certaines personnes, ou alors on se dit que ce grand poudlard au milieu du lac que l'on voit depuis plusieurs heures a l'air d'abriter quelque chose d'intéressant pour la suite. La manière dont le jeu nous pousse à explorer est donc différente d'un jeu à la Ubisoft, et le monde ouvert est ainsi construit avec cette contrainte en tête. Cette interrogation, c'est ce qui a tout le temps fait le charme des jeux From Software de mon côté. Une curiosité permanente qui peut nous récompenser avec la découverte de nouvelles zones inattendues. Là où Elden Ring est d'ailleurs assez marquant dans son monde, c'est aussi sur cet aspect. Il crée beaucoup de scénographie, une mise en scène de son open world assez incroyable qui donne toujours envie d'en voir plus. L'arrivée à Lyurnia, la Siofra ou Kaelid sont des visuels qui restent en tête. Avec des moyens très simples, comme le fait de sortir d'une grotte, on peut vraiment poser des plans incroyables pour lesquels on se sent explorateur et non visiteur. Et le jeu utilise aussi beaucoup cette mécanique, notamment pour teaser des zones que l'on verra bien plus tard dans notre partie. Mais Elden Ring est aussi un jeu qui reprend des codes classiques des mondes ouverts d'Ubisoft, notamment dans sa manière de remplir son monde. Car si celui-ci est agréable à explorer, il est malgré tout rempli des points d'intérêt qui se multiplient dans le jeu. La seule différence est qu'ici, ils ne sont pas affichés sur la carte. Et ces points d'intérêt ne sont pas toujours passionnants. Au bout de la 15e grotte, puis de la 15e catacombe dans laquelle on retombe dans les mêmes salles, les mêmes ennemis, les mêmes ascenseurs et les mêmes variantes de boss, la lassitude était très grande. Et c'est pourtant un des points essentiels d'un monde ouvert. La manière d'explorer en est un, mais le rythme du jeu en est un autre qui est très crucial. Elden Ring a sûrement peur que nous nous ennuyions et remplit son monde d'endroits finalement peu intéressants à explorer, Même si je vous rassure, il y a quand même énormément à explorer. Car effectivement, le pire, c'est que le jeu a vraiment pas besoin d'en mettre autant. Il y a toujours à explorer si on est bloqué, et le jeu a un monde gigantesque et une durée de vie gargantuesque. Alors du coup, Elden Ring va-t-il changer la vision du monde ouvert ? Bon, vous imaginez bien que je suis personne pour juger cela, mais j'espère vous avoir donné quelques pistes pour essayer de mieux appréhender ce que réussit le jeu et ce qu'il réussit moins. Son monde est magnifique, imposant, fantastique à explorer, avec des moments gravés dans ma mémoire. Mais pour moi, il est trop grand, trop long, et rempli de contenus qui ne font que me lasser sur le long terme. Et ça, c'est un problème récurrent des mondes ouverts qui existent depuis des années et qui est encore présent aujourd'hui. Toujours plus grand ne veut pas spécialement dire plus agréable à parcourir, bien au contraire pour ma part. Je ne suis donc pas sûr que tout dans le monde d'Elden Ring est à prendre comme modèle. D'autant plus qu'il y a un point très important pour lequel je ne veux pas qu'il soit pris en exemple. Tant de contenu, trop de contenu, ça a sûrement nécessité un travail gigantesque des devs qui ont dû se tuer la santé pour avoir un tel résultat. Je ne veux donc pas qu'Elden Ring soit pris en exemple comme un jeu excellent, car possédant un contenu gigantesque. Je veux qu'il soit retenu pour sa confiance qu'il fait aux joueurs et joueuses, et aussi par ses mécaniques très simples qui proposent une expérience de jeu plus viscérale, notamment dans la découverte du monde.
Merci déjà pour vos deux chroniques, et celle qui m'a le plus titillé quand même c'est celle de Beyond, parce que ce qui m'attire le plus moi dans ce jeu c'est surtout son univers plus que ses combats. Je me suis pas encore testé déjà parce que j'ai peur que ma bécane tienne pas la route, donc faut que je vérifie si jamais il peut passer sur mon ordi. Et ensuite t'as exprimé tous les doutes que je peux avoir par rapport au jeu, je trouve que tu les as bien exprimés. Notamment celui de la durée, parce que quand je vois des gens qui sur Twitter disent voilà, j'ai enfin fini, j'ai fait 120 heures, etc., je me dis mais j'ai pas le temps en fait d'un truc comme ça, donc je me demande si jamais je vais vraiment me lancer ou pas. Et j'étais très content que tu soulignes aussi ce que sous-entend en termes de conditions de travail un jeu aussi monumental, et je pense que t'as bien fait de le souligner et de dire qu'il faudrait pas que ça devienne la norme, parce que sinon l'industrie et surtout les travailleurs et travailleuses vont pas tenir le coup. Et en plus là il y a quoi, il y a un mois ou un mois et demi, je sais plus exactement, 2-3 articles étaient sortis sur From Software à propos de ces conditions de travail, justement de ces des tarifs, des salaires, etc., qui étaient assez déplorable. Donc voilà, c'est pas parce que les jeux sont fantastiques que From Software échappe au triste problème qu'on rencontre un peu partout dans l'industrie.
Lys, tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, j'aimais bien ce que tu as dit quand tu as parlé de plus visiter qu'explorer vraiment le monde. En plus, j'ai vraiment ressenti ça quand j'ai joué à Assassin's Creed Odyssey. C'était très beau, j'avais envie de voir plein de choses, mais pas forcément d'explorer, de faire toutes d'aller vers toutes les interactions que le jeu propose, toutes les tâches un peu secondaires, les collectibles, tout ça. Mais par contre, c'est vrai qu'on est quand je me balade dans des mondes ouverts, je suis toujours un petit peu impressionnée. Forcément, il y a le côté immense représentation, voilà, en plus pour des jeux qui reprennent des périodes historiques qui sont assez intéressants. Mais c'est plus, ouais, j'ai plus envie de les visiter finalement que les explorer. Donc j'aimais bien ce parallèle que tu avais fait pour Elden Ring. Et oui, j'ai très envie d'y jouer comme beaucoup de gens, je pense, mais ce sera pas pour tout de suite.
Breath of the Wild 2 a été repoussé là, il y a quelques jours, quelques semaines. Et moi j'ai quand même la très forte impression que quand Breath of the Wild est sorti, Miyazaki est arrivé en réunion chez From Software et a dit bon, j'ai joué à Breath of the Wild, et que là du coup Elden Ring est sorti, et Aonuma a dû arriver en réunion sur Breath of the Wild 2 et dire bon, j'ai joué à Elden Ring, il va falloir revoir des choses parce qu'il y a des trucs qui font mieux que nous. Donc voilà, c'est sûr que on s'en souviendra je pense, mais ce que j'aimerais bien voir la filiation et les échanges d'idées qu'il y a entre ces deux séries, parce qu'il y en aura forcément.
Et on conclut ce segment Elden Ring avec la première pause musicale de l'émission, où on écoute le main theme d'Elden Ring, composé par Tsukasa Saito. Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, l'entretien avec l'invité.
Merci H. Guillaume, salut, rebonsoir.
Rebonsoir.
Je suis ravi que tu sois parmi nous ce soir. Merci encore d'avoir accepté notre invitation.
Merci pour l'invitation.
Ben, je t'en prie. Comme H l'a précisé au début de l'émission, tu as beaucoup de casquettes différentes puisque tu es artiste, vidéaste, tu es aussi photographe, dessinateur, tu interviens dans deux podcasts différents, mais surtout, et c'est pour cette raison que je t'ai convié, tu es docteur en art et l'essentiel de tes recherches porte sur les jeux d'horreur et les représentations qu'ils véhiculent, et ça va être la thématique de notre entretien ce soir. Alors avant qu'on entre dans le vif du sujet, en revanche, je te propose qu'on commence par déterminer un petit peu de quoi on parle. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui définit un jeu d'horreur, aussi bien d'un point de vue, enfin aussi bien du point de vue de ses thématiques que des mécaniques de gameplay? Est-ce qu'il existe en fait des critères précis pour définir un jeu d'horreur ou pas?
Eh bien, c'est la question au piège parce qu'on se retrouve avec le genre de problématique qu'on pourrait avoir si on se posait la question pour le cinéma ou la littérature. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un genre qui va englober énormément de choses. Et bon, on a quand même un avantage malgré tout, c'est qu'on a la problématique du gameplay qui va nous permettre de définir un tout petit peu plus précisément. Parce que pour ce qui est de la thématique, on imagine bien que tout ce qui touche à... Alors, c'est une expression que j'aime bien, c'est Olivier Schaeffer, un philosophe qui emploie ça, il parle d'esthétique sanglante. Lui, à propos du cinéma d'horreur, et c'est qu'on va avoir toute cette thématique liée, voilà, à la représentation du sang, des substances, etc., pour en parler de manière très très générale, qui va amener beaucoup de jeux dans ce domaine-là. Mais si on veut vraiment cibler et pouvoir vraiment axer sur le fait que c'est un jeu d'horreur, on va pouvoir commencer à s'intéresser un tout petit peu aux mécaniques des jeux, et notamment, il y a un sous-genre, moi c'est là-dessus que j'ai précisément travaillé, j'ai débuté mes recherches, c'est le survival horror, parce que le survival horror, il a un gros avantage, c'est que le nom de ce sous-genre détermine clairement deux aspects: l'aspect horrifique qui est donc la thématique, la représentation de choses qui sont censées faire peur, et il y a l'aspect survie, et qui là nous donne des indications sur le gameplay, à savoir le fait que il faut être dans le contrôle, il faut être dans la gestion, on va être dans quelque chose qui relève d'une économie, moi ce que j'appelle une économie de carence, c'est-à-dire qu'on doit toujours faire beaucoup avec rien, et ça va être quelque chose qui va être vraiment essentiel, le manque de nourriture, de points de vie, le manque d'énergie, de force, si on se base sur les survival horror, on veut dire les plus fondateurs, les plus basiques, et parce que bien évidemment il y a énormément de moutures et de styles d'approche différentes, mais voilà, on se retrouve avec quelque chose qui est assez clair en termes de direction, mais malgré tout, on a un genre qui va, et c'est en plus extrêmement courant dans le jeu vidéo d'avoir des genres ludiques qui vont se contaminer les uns les autres, où on va se retrouver avec des noms de genres à rallonge, parce qu'on a, on a des genres dont on va se rendre compte que ça peut constituer des cocktails intéressants, et en plus la thématique horrifique qui va déborder sur simplement des jeux qui veulent créer une ambiance spécifique, et qui par ailleurs peuvent être des jeux parfaitement narratifs ou des purs jeux d'action, mais qui vont reluquer du côté de ces choses-là. Je pense par exemple, pour un exemple récent, à Returnal, qui emploie énormément de la grammaire de l'horreur, alors que c'est absolument un jeu d'un point de vue du gameplay qui est un pur jeu d'action.
Et du coup, les jeux qui ne sont pas des jeux de survie, qui ne sont pas des survival, des jeux plus atmosphériques, disons, comme tu l'évoquais là à la fin, est-ce que ça peut toujours être considéré comme des jeux d'horreur quand même, même si jamais il n'y a pas toutes ces mécaniques présentes? Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils sont moins vidéoludiques que les survival horror?
En tout cas, j'ai pas la prétention d'avoir une définition qui est universelle, mais je suis assez souple, on va dire, sur la manière de déterminer les genres. Mais pour moi, oui, il y a des jeux qui parfois même n'ont pas l'air du tout de traiter avec l'horreur et qui intègrent des éléments de mise en scène, des éléments de présentation de l'univers, ou simplement des types d'univers qui vont renvoyer, qui vont faire signe vers l'horreur. Je pense à un exemple précis qui est celui de Dear Esther, qui est un jeu qui a priori va plutôt être catalogué comme un walking simulator, quelque chose d'assez narratif et poétique. Bon, on a quand même des passages qui sont très surréalistes et une mise en scène, un travail sur les espaces et sur ce qui peut éventuellement être fugitif, apparaître dans l'image, qui relève de procédés qu'on utiliserait dans l'horreur pour créer vraiment quelque chose capable de saisir les joueurs, les joueuses. Donc Oui, il y a des jeux qui, sans aller vers des mécaniques vraiment hardcore, au sens où ce sont vraiment les mécaniques, on va dire, estampillées comme celles des survival horror, qui vont du côté de l'horreur. Je parlais tout à l'heure de Returnal, je peux penser par exemple à Bloodborne. Bloodborne, pour retourner chez From Software, c'est est-ce qu'on est dans l'horreur, est-ce qu'on n'y est pas ? D'un point de vue des thématiques pures, on en est très très proche, parce que là, on baigne littéralement dans le sang. Par contre, d'un point de vue du gameplay, on peut pas complètement mettre ça dans le même sac qu'un Silent Hill ou qu'un Resident Evil, en tout cas le premier épisode. Et malgré tout, il y a quand même une connexion qui s'établit. Donc moi, je suis pour observer le fait que tout ça, c'est extrêmement poreux et que on aura beau vouloir lutter, essayer de déterminer avec des jalons et des bornes, de vraiment cloisonner ce que peut être le genre d'horreur, enfin le genre horrifique, et ça me paraît complètement vain en fait.
Bon, du coup, maintenant qu'on n'a pas vraiment réussi à définir ce que c'est, du coup, le jeu d'horreur, est-ce que...
C'est le problème, c'est le problème.
mais la question est passionnante, du coup. Avant de rentrer dans des sujets plus précis, est-ce que toi, ton rapport au jeu d'horreur, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu et surtout nous dire comment tu as abordé le genre horrifique dans le cadre de tes recherches ? Quelle a été ton approche du jeu d'horreur dans ta thèse notamment et dans tes articles plus récents ?
Mais c'est vrai que c'est un point pour savoir entre guillemets d'où je parle, c'est un point qui est intéressant à aborder. C'est-à-dire que l'approche que j'ai moi, c'est une approche, comme on le disait, enfin tu le disais en introduction, moi j'ai une formation en art plastique, et du coup mon approche, c'est une approche visuelle avant tout, et je suis arrivé à l'horreur en m'interrogeant sur les liens entre le jeu vidéo et les arts plastiques. J'en suis arrivé à m'intéresser aux représentations monstrueuses, et de là j'ai commencé à m'intéresser je pouvais pas, si j'ai essayé de m'intéresser aux monstres en général, je 20 ans après j'étais encore sur ma thèse, donc enfin aux monstres dans le jeu vidéo c'était impossible d'en sortir, et donc j'ai commencé à chercher un point d'entrée qui me permettait d'avoir une vision assez claire, nette et dans un sens radical de l'utilisation des monstres, et l'horreur s'est imposée. Et ce qui m'intéressait, c'était d'analyser. Donc maintenant, ça fait quand même un sacré nombre d'années que je fais ça, plus de 10 ans, d'analyser comment les représentations vont jouer sur nos émotions et comment elles sont constitutives de l'expérience de jeu. C'est-à-dire que je vais m'intéresser au gameplay, je vais m'intéresser à tout ce qui peut se trouver dans un jeu, mais toujours à travers le prisme de comment ça a une répercussion sur ce qui relève de l'image et plus précisément ce qui relève de l'iconographie, donc vraiment des représentations, et notamment des monstres et de manière plus ouverte des représentations pardon, corporelles, parce que ça a été vraiment le fil rouge de mes recherches.
Et du coup, c'est parfait, on va profiter de ta spécialisation pour parler d'images, de représentations et d'émotions dans le jeu d'horreur. Pour commencer, j'aimerais qu'on aborde la question du point de vue et de la caméra, qui est souvent évoquée lorsqu'on parle de jeux d'horreur. On dit souvent que le point de vue à la première personne est plus immersif, entre guillemets, que le point de vue à la troisième personne, et que par conséquent, les jeux d'horreur à la première personne seraient plus effrayants. Qu'est-ce qu'on sait véritablement sur cette question ? Et toi, quel est ton point de vue sur le sujet ?
Alors, mon point de vue pour répondre directement à la question, c'est que c'est un mythe. Le côté la vue à la première personne est plus efficace. Alors, d'un point de vue, alors j'aime pas forcément trop ce type d'approche chiffre à l'appui, mais alors il me semble que c'est dans un texte de Mathieu Triclot. Il me semble que c'est dans sa philosophie du jeu vidéo, mais c'est peut-être dans un autre de ses textes où il aborde justement cette question-là et le fait que des études ont été menées par des psychologues, hein, et il a été montré d'un point de vue entre guillemets scientifique que ça n'a aucun effet vraiment véritable sur les joueurs et les joueuses, le fait d'être à la première ou à la troisième personne, d'un point de vue de l'immersion, il n'y a pas une formule qui est plus efficace que l'autre. Et appliqué à l'horreur, ça me paraît d'autant plus pertinent que on a des exemples de premiers jeux, entre guillemets, de jeux fondateurs dans ces genres-là, que ce soit Alone in the Dark, Silent Hill, le premier Resident Evil, et puis les Resident Evil qui ont suivi pendant un certain temps avant le 7. On a des exemples de jeux à la troisième personne qui peuvent être extrêmement efficaces et éprouvants, et Et c'est le rapport à la première personne, c'est quelque chose qui est venu beaucoup plus tard dans l'histoire des jeux d'horreur. C'est quelque chose qui a été introduit par Amnesia, en tout cas par Frictional Games, et leur série de jeux d'horreur, et qui a été, entre guillemets, le clou a été enfoncé par Outlast de Red Barrels en 2013. Et là, il y a eu une vague qui a suivi. Mais cette vue, elle s'est imposée, à mon avis, non pas tant pour des questions vraiment d'efficacité ludique ou d'efficacité horrifique, mais aussi parce que tout simplement, ces studios dont je parle, c'est des studios indés, et que développer un personnage en réalisant sa modélisation, ses animations, c'est aussi un coût qui peut être parfois très élevé, et que c'est d'ailleurs, il y a un indice qui est assez intéressant, c'est quand on voit Bluebird Team, donc le studio qui nous a fait Layers of Fear et récemment The Medium. Et justement, leur trajectoire, c'est d'avoir commencé des jeux en vue la première personne, alors que c'était un studio qui était vraiment tout petit à la base. Sur le premier Layers of Fear, il y a peut-être 10 personnes au générique. Et quand on arrive sur des projets beaucoup plus gros et beaucoup plus financés, The Medium, qui est en plus un hommage à Silent Hill, eh bien, on arrive sur un jeu à la troisième personne, avec un personnage animé. D'ailleurs, c'est un des petits soucis du jeu, c'est qu'on sent que ça manque de finition en termes d'animation, parce que c'est compliqué à faire. On n'est plus à l'ère PS1 où on pouvait animer de manière un peu brute, on va dire, les personnages. Et donc c'est un mélange de beaucoup de choses, à mon avis, qui a amené l'horreur à se diversifier dans ces terrains-là, c'est-à-dire à savoir d'un côté des raisons financières, des raisons de développement, et des raisons de mode aussi liées à la vue à la première personne. C'est pas pour rien que Resident Evil 7 et 8 ont basculé de ce côté-là. Mais d'un point de vue de l'efficacité, ça change, pour moi ça ne change rien. Dans un jeu à la troisième personne, on a une distance par rapport au personnage, on peut se projeter pour le personnage, craindre pour ce qui peut lui arriver, alors qu'en jeu à première personne, c'est à la première personne, comme le nom l'indique, on se sent plus concerné soit directement, mais est-ce que pour autant on a moins d'émotions pour un personnage tiers que pour soi-même? Ça dépend de l'empathie de chacun, on va dire. Et bon, on va pas psychanalyser tout le monde, mais dans l'idée, il y a quand même une réflexion à mener là-dessus. Et autre chose, c'est que la vue de la première personne, ça limite aussi en termes de mise en scène, parce qu'on peut faire mettre en place un certain nombre de procédés de mise en scène, mais on ne fait pas du tout les mêmes qu'à la troisième personne. Et j'ai tendance à simplement ramener ça au fait que le cinéma l'a bien montré. Pour le cinéma d'horreur, la vue de la troisième personne, le fait de montrer les personnages, est extrêmement efficace. Et d'ailleurs, sur l'histoire du cinéma en général, on voit bien que la vue de la première personne, c'est finalement quelque chose d'assez rare, parce que c'est pas forcément extrêmement plaisant au cinéma, et que c'est pas forcément beaucoup plus efficace en termes d'immersion et d'émotion.
Merci pour cette réponse très claire. Et à ce sujet, je crois d'ailleurs que la chaîne de Horror 404 avait produit une vidéo sur... je sais plus sur quelle... Je crois que c'était sur une vidéo qui concernait Little Nightmares, où il nous explique que en fait, le fait qu'on soit à la troisième personne et que la menace soit représentée à proximité du corps qu'on contrôle, qu'on incarne, est source de tension et d'horreur, et que justement ça ne pourrait pas arriver à la première personne. Je vous recommande d'aller y jeter un œil.
C'est un très bon exemple, Little Nightmares, que ce soit le premier ou le deuxième épisode, parce que justement, on a vraiment cette tension-là qui est créée par le fait qu'on nous montre un enfant à la troisième personne, et forcément, d'un point de vue de l'empathie, c'est forcément très efficace. Et d'ailleurs, c'est également un bon exemple pour montrer à quel point l'horreur, ça peut être élastique comme concept, dans la mesure où, de prime abord, on pourrait dire que c'est un jeu plateforme, et qu'en réalité, les thématiques horrifiques ont vraiment un sens dans ce jeu de plateforme.
Pour ceux qui n'auraient pas fait, alors plutôt le 1, parce que le 2 je trouve un peu faible, mais le 1 est vraiment 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 merveilleux.
Monsieur est sévère.
J'ai beaucoup aimé
le 2.
Un peu faible, c'est dur, mais on en parlera en off tous les deux. D'accord. Par la suite. Thématique suivante, c'est une autre idée préconçue qui concerne le jeu vidéo d'horreur. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu. C'est tout ce qui relève de la technique et des graphismes. La peur étant suscitée, comme tu le dis, en plus avant tout et beaucoup par ce qu'on voit, on peut être amené à penser que le jeu d'horreur entretient un rapport particulier avec la technologie, et on peut se dire que plus un jeu est réaliste graphiquement, plus il est bien fait, entre guillemets, et plus il fera peur. Alors, Est-ce qu'une meilleure simulation fait nécessairement plus peur? Et est-ce que des jeux anciens comme Alone in the Dark ou le premier Resident Evil font moins peur aujourd'hui parce qu'ils sont techniquement datés?
C'est une question, oui, effectivement, qui est très très riche. Là, on pourrait partir là pour des heures, mais parce qu'il y a vraiment une problématique qui se pose autour de ça. On a souvent l'idée, comme tu le disais, que voilà, des visuels très réalistes, très, extrêmement efficaces. Parce que moi, c'est une dynamique et c'est une approche qui m'a beaucoup intéressé pour mes recherches. C'est que je me suis pas limité à la question de la peur dans les jeux vidéo d'horreur. J'ai essayé de chercher parce que mon approche, elle était autour de l'iconographie, donc de la représentation. J'ai essayé de m'intéresser aussi au dégoût, qui est pour moi une composante essentielle de l'horreur, et en tout cas des formes d'horreur les plus efficaces, les plus radicales. Je pense par exemple à Dead Space, tout bêtement, où le dégoût a une part très très importante, que ce soit visuellement ou même d'un point de vue sonore. Et c'est une véritable question, et une question, je pense, que se posent les développeurs, c'est jusqu'où on peut aller trop loin. Et je me souviens avoir lu une interview des développeurs de Outlast, justement, qui sont pas les derniers pour avoir envie d'aller loin, mais qui se posaient quand même la question de à quel moment les joueurs vont poser la manette. Et effectivement, un des outils pour faire poser la manette, c'est entre guillemets le réalisme ou le photoréalisme, même si c'est un terme particulier, des jeux. Et moi, je me pose la question parce que je suis pas persuadé que ça soit rédhibitoire le fait d'avoir quelque chose de. Parce que. Ça dépend aussi de la connaissance qu'on a du médium jeu vidéo, mais moi je sais que je fais partie de ce genre de personne qui peut rester 3 minutes à regarder les reflets d'une flaque d'eau, et ça peut me faire la même chose dans un jeu tout aussi dégueulasse soit-il. Je peux passer du temps à regarder les textures, voir le rendu des lumières, les reflets, etc. Et finalement, ça c'était une théorie que j'avais défendue dans un article il y a quelques années, mais qui est que ce qui va pouvoir arrêter éventuellement le dégoût, c'est justement dans une image hyper réaliste, c'est le fait qu'on puisse s'attarder sur la qualité de l'image en tant qu'image, et que finalement on soit ok, on est face à quelque chose qui est extrêmement réaliste, mais on est toujours conscient en tant que joueur, on est conscient qu'on est face à un jeu, et il y a toujours cet effet waouh qui est que même si le jeu est saisissant, de la même manière qu'on évoquait tout à l'heure le fait de s'arrêter devant un panorama, devant Elden Ring, on peut aussi s'arrêter devant une représentation monstrueuse en disant ouais, c'est incroyable le travail qui a été fait, c'est incroyable la qualité de cette image, c'est incroyable cette texture. Et je pense que cette dimension là c'est quelque chose qu'il ne faut pas évacuer, de la même manière qu'un spectateur au cinéma un peu aguerri, quand bien même il peut être rudement secoué par la séquence d'un film, peut aussi se dire oh là là, mais quel génie ce réalisateur, ça a été filmé d'une manière incroyable. À mon avis, notre cerveau fait ce double travail, et ça s'appelle quelque chose qui fait que la quête du réalisme ne va pas forcément devoir trouver une limite pour l'horreur. Et inversement, pour revenir au début de la question, la mode des jeux vidéo d'horreur en gros pixels, que ce soit des jeux comme Home, alors là c'est des très très gros pixels, Where's Van Death, ou à quoi je pourrais penser encore, il y a Yuppie Psycho par exemple, montre qu'on peut réussir à produire un effet en jouant plus sur une peur qu'elle y a à la mise en scène, au contexte, ou à quelque chose d'assez angoissant dans le contexte, encore une fois, et que inversement, on peut produire quelque chose qui soit dégoûtant en jouant sur le son, sur l'image, même avec des gros pixels. Donc il y a vraiment un équilibre, je pense, qui se trouve. Encore une fois, c'est lié à l'histoire du média. C'est-à-dire que il y a quelques années, peut-être qu'il y a 10 ans, avant la mode des jeux indés à gros pixels, le discours et mon discours aussi aurait peut-être, enfin il y a 10 ans, il y a 15 ans, aurait peut-être été ah oui, mais plus on avance dans le temps, plus les jeux sont efficaces, et plus le fait de regarder des jeux un peu rétro, c'est problématique. Sauf que ces jeux rétro sont redevenus une esthétique à part entière, et on fait du jeu rétro comme on fait du jeu avec l'Unreal Engine 5, et si le jeu fonctionne, si la mise en scène est bonne, il n'y a pas de raison qu'on sursaute moins. Par contre, effectivement, l'impression de dégoût, on l'aura sans doute quand même de manière moins puissante avec du pixel art, mais je sais que par exemple dans Yuppie Psycho il y a des séquences qui sont franchement déplaisantes, et pourtant c'est vraiment du gros pixel art.
Et même quand on voit rien, on peut aussi avoir peur. Là, pendant qu'on en parlait, c'est vrai que j'ai pas pensé à cet exemple en préparant l'émission, mais là, en t'entendant parler, il m'est revenu l'exemple en tête de Untold Stories. Ou Stories Untold, tout à fait. Je sais plus dans quel sens c'est.
Je me rappelle jamais. Jamais non plus.
On est très proche du jeu textuel, en fait, et alors... Pas les 2, 3, 4e chapitre, mais le premier chapitre, celui qui ouvre le jeu, m'a vraiment terrifié. Alors en même temps, c'était extrêmement plaisant parce que j'étais ébahi de voir qu'un jeu textuel, enfin quasi textuel, pouvait me procurer cette sensation, mais en même temps, j'étais vraiment terrifié chez moi devant mon écran. C'était atroce. Et pourtant, on a juste du texte en vert sur un vieil écran cathodique. C'est tout.
Il y a une économie de moyens qui est dingue, et pourtant, c'est hyper efficace. Mais aussi, les développeurs de No Code, ils l'ont montré après avec Observation, mais ils ont une capacité à utiliser les interfaces pour dire des choses qui est assez dingue.
Et pour finir cet entretien, dernière thématique, j'aimerais qu'on aborde ensemble le sous-genre, disons la sous-catégorie du jeu d'horreur, qui est celle de l'horreur psychologique, ou en tout cas de l'horreur cosmique, qui est pas mal à la mode depuis quelques années, et qui doit beaucoup à l'univers qu'a élaboré Lovecraft en littérature. Et moi, j'ai l'impression que cette sous-catégorie de l'horreur en jeu vidéo, elle fait face à une certaine forme de paradoxe, puisque chez Lovecraft, l'effet de peur et d'horreur repose sur les notions d'indicible et d'indescriptible, et donc beaucoup sur l'imagination du lecteur, ce qui semble a priori incompatible avec le jeu vidéo, qui est lui un médium essentiellement visuel. D'où ma question... Comment montrer l'immontrable en jeu vidéo, et surtout comment le montrer ou ne pas vraiment le montrer de manière efficace pour susciter cette horreur psychologique ou cosmique, et pour ne pas en fait réduire à néant les effets de l'horreur en montrant trop. Comment on peut s'y prendre?
On s'y prend difficilement, parce que jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas forcément vu de grande réussite de ce point de vue-là, si ce n'est en mettant bout à bout des thématiques qui vont convoquer les grands anciens, les créatures venues de l'espace, etc. Mais en termes purement de représentation, après, ce qui n'enlève rien à la qualité de tous les jeux qui peuvent utiliser ces ressorts-là, hein. Mais d'un point de vue strictement visuel, en fait, ça rend pas hommage au texte de Lovecraft, mais est-ce que la question, c'est peut-on vraiment, parce que le cinéma s'y est cassé les dents aussi, hein, peut-on rendre hommage vraiment visuellement à ce qu'a au travail de Lovecraft? Ça, c'est une vraie question. Et je pense que les outils, c'est justement d'essayer de voir comment l'image peut être retravaillée, peut être brouillée, peut être amenée sur quelque chose où on aurait, et c'est le risque à prendre à mon avis, on aurait un jeu où l'image ne serait plus lisible. Et il y a assez peu de jeux qui s'amusent à ça. Récemment, je travaillais sur Get Even qui a tenté des choses comme ça. Il y a Observer qui tente des choses comme ça, même si on est pour le coup pas dans le Lovecraftien, mais et le jeu qui pour moi m'a évoqué le plus ce qui pourrait permettre de représenter entre guillemets l'horreur Lovecraftienne, c'est un jeu comme Hellblade, le premier épisode, où on a des séquences où l'image est complètement fractionnée, complètement détruite, et on a du mal à comprendre ce qu'on est en train de faire, et finalement on n'est plus dans une interrogation autour de la représentation, on est dans un questionnement autour de la plasticité de l'image, sa manière à se transformer, à évoluer, et c'est finalement ça, c'est faut modifier notre perception par rapport à ce type de représentation. Et on peut faire un poulpe aussi gigantesque qu'on veut, ça restera un poulpe. Et même s'il fait la taille d'un immeuble, on aura en face de nous quelque chose qu'on peut comprendre. On aura un grand poulpe, voilà. Alors, ce qui peut... le biais, l'entre-deux, ça serait... encore une fois, c'est encore une fois From Software que je vais invoquer, notamment avec Bloodborne, où on a des créatures, je pense à Amidala, ce genre de créatures, où là, ils arrivent à vriller tellement l'anatomie de ces créatures, on a tellement du mal à comprendre comment elles sont fichues, qu'avec des fourrures à moitié... qui recouvre vaguement le corps avec des références très aux insectes, mais avec des placements des organes et des membres complètement improbables. Là, on a quelque chose qui touche un peu à quand même cette question de l'indicible, c'est-à-dire que la preuve, là, j'ai du mal à décrire ce genre de créature parce que alors, on n'est pas encore dans l'indicible, mais on est dans quelque chose qu'on a du mal à comprendre malgré tout. Donc ça, c'est une piste qui est intéressante qui est au niveau de l'iconographie, mais je reste persuadé que pour moi, il faut vraiment triturer complètement l'image. Et c'est d'ailleurs un point qui est intéressant, c'est que Lovecraft, dans l'appel de Cthulhu, il évoque lui-même à propos des sculptures dont il parle dans le texte, il évoque lui-même, il fait référence au cubisme et au futurisme italien, et qui sont des arts de la simultanéité où les artistes essayent, en tout cas dans les premières phases du cubisme, essayent de montrer le réel dans plusieurs temporalités, dans plusieurs spatialités en même temps. Ce qui est finalement une des idées qui est développée par Lovecraft dans ce qu'il y a d'incompréhensible dans ce que voient les personnages confrontés à l'horreur cosmique. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés à quelque chose qui les déborde, qui les dépasse dans tous les sens, parce que c'est quelque chose qui a voyagé à travers le temps, quelque chose qui occupe un espace sans être présent, etc. Donc finalement, cette référence au cubisme, c'est une très très bonne piste. Et quand bien même Lovecraft détestait ça, hein, il avait des goûts extrêmement classiques en peinture, mais et c'est intéressant de noter que par exemple dans le jeu de Cyanide Call of Cthulhu, on a des références partout à la peinture cubiste, sachant que c'est dans le nœud de l'intrigue, hein, on a une peintre qui a disparu et que les créatures utilisent les peintures, voilà. Mais par contre, dès qu'on a, il y a notamment un personnage qui est de collectionneur d'art, et dans son intérieur, on a énormément de peintures qui sont des sortes de fausses peintures cubistes. Donc l'idée était là, mais malheureusement, elle n'a pas été utilisée techniquement après dans le jeu. Les seuls effets de perturbation qu'on retrouve, c'est des effets de flou, d'agitation, de spectres colorés qui s'étalent, qu'on voit dans plein de jeux. Et il n'y a pas forcément de réutilisation. Moi, je reste sur l'idée que ce qui s'en rapproche le plus, c'est Hellblade, qui a réussi à faire quelque chose qui, visuellement, que j'ai jamais vu ailleurs.
Merci beaucoup, Guillaume, pour cette réponse, pour ces réponses. Notre tête-à-tête touche à sa fin, malheureusement, mais avant qu'on enchaîne avec la seconde partie de l'entretien et les questions des autres chroniqueuses et chroniqueurs, petite pause musicale. On écoute cette fois-ci Omen, composé par Ryan Amon, pour la bande originale de Bloodborne. Vous écoutez Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up grâce au financement de l'université Sorbonne Nouvelle et diffusée sur Radio Campus Paris. Avant de laisser le micro à mes camarades, je me permets une dernière petite question pour toi Guillaume. Comme c'est toi qui as choisi le morceau qu'on vient d'écouter, est-ce que Bloodborne fait partie des jeux que tu as étudiés au cours de tes recherches? Mais bon, je pense que c'est un oui, sachant que tu l'as évoqué déjà à plusieurs reprises. Et surtout, quel attachement tu as par rapport à ce jeu? Est-ce qu'il occupe une place particulière et dans ton travail et dans ton cœur de joueur?
Alors c'est vrai que j'aurais pu choisir pas mal de musiques différentes. J'écoute beaucoup de musiques de jeux, et notamment de jeux d'horreur, pour m'ambiancer quand j'écris. Mais il y a beaucoup de compositeurs qui auraient pu être nommés. Mais c'est vrai que la musique de Bloodborne, je trouve que, enfin, cette musique qui est la musique d'introduction du jeu, qui est celle du générique et qui était celle du trailer, je la trouve incroyablement efficace parce qu'elle est complètement envoûtante. Et en fait, c'est l'effet que m'a fait le jeu. Là, on dirait un chant de sirène, mais en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement sombre avec ce violoncelle qui démarre. Enfin, voilà, et c'est vraiment l'impression que m'a laissé ce jeu. Moi, c'était mon premier From Software et ça me faisait extrêmement peur de m'y mettre parce que je me disais, oh là là, jamais je vais y arriver. Et en fait, l'univers, les thématiques m'ont complètement absorbé et ça a été ma porte d'entrée. Et c'est vrai que c'est un jeu, oui, sur lequel j'ai eu l'occasion d'écrire et que je cite dès que j'en ai l'occasion parce qu'il est assez prodigieux dans ce qu'il fait d'un point de vue de l'image, de l'iconographie, de la mise en scène. Et aussi, ce qui est notable chez From Software, c'est vrai qu'on serait quelque chose qui a déjà commencé à donner des vidéos sur YouTube, à mon avis ça va pas s'arrêter, dans les références qui sont faites à des œuvres classiques, des peintures. Je pense qu'ils ont un très très bon documentaliste, ou une très très bonne documentaliste chez From Software, qui leur trouve des kilotonnes de références visuelles, parce qu'il y a toute la peinture allemande du 19e siècle, toute une histoire de la peinture qui transpire dans les jeux From Software, et notamment dans Bloodborne, où on a cette esthétique 18e qui est absolument incroyable et qui, moi, m'a vraiment m'a complètement secoué.
Merci Guillaume, merci Jean.
Avec plaisir.
Et on passe maintenant aux questions de la part des chroniqueurs.
Petite question, vu que tu aimes autant l'horreur que moi j'aurais une toute petite question, c'est est-ce que tu aurais un jeu à conseiller pour les personnes qui aimeraient avoir cette sensation un peu d'horreur, mais qui ont un peu trop peur, qui ont peur d'être désemparés face à ce genre de jeu?
Alors, effectivement, très bonne question. Alors, j'ai tendance à dire pour la blague, mais à moitié pour la blague, Luigi's Mansion 3. Parce que ça, dans un sens, c'est un jeu d'horreur qui reprend tous les codes du jeu d'horreur et de la mise en scène gothique, mais pour les enfants, donc c'est plutôt un bon aspect. Je suis sûr que je me suis déjà posé la question comme porte d'entrée. Oh là là, à froid comme ça, c'est difficile. J'essaye de faire défiler dans ma tête un peu tous les jeux, mais on trouve des choses du côté de jeux qui seraient plus narratifs, des choses qui seraient pas. Dans un sens, par exemple, Layers of Fear peut être une porte d'entrée. Il n'y a pas forcément grand-chose à y faire. C'est un train fantôme, littéralement. Ça peut être une bonne porte d'accès. Pour le côté, celles et ceux qui seraient embêtés par ce qui relèverait du gameplay, mine de rien, moi, il y a tout le travail qui est en cours par Supermassive Games sur la Dark Picture Anthology, où on est finalement sur du cinéma d'horreur interactif, que je trouve très très intéressant. Alors, il y a plein de défauts, on pourrait critiquer plein de choses dans ces jeux-là, mais je pense que c'est une piste qui est vraiment intéressante. Après, dans des jeux qui seraient vraiment complètement consacrés comme des jeux d'horreur et qui pourraient être intéressants, on parlait de Little Nightmares tout à l'heure, il y a quelque chose qui, voilà, encore une fois, qui est un peu, je prends un peu la question de biais, mais ça peut être vraiment intéressant. Et alors, j'essaie de regarder mon étagère de jeux en même temps pour avoir vraiment la révélation, parce que je suis sûr que ça va me revenir après l'émission, bien évidemment. Mais faut aller du côté, pour moi, faut aller du côté du jeu indé. En tout cas, il y a énormément de choses, et depuis quelques temps, en plus, ce qui est très très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de petits studios d'horreur qui trouvent des éditeurs pour notamment des diffusions et des diffuseurs pour que leur jeu soit disponible en boîte. Donc ça vaut le coup, si on veut se mettre à l'horreur, de commencer à regarder ce qui se fait un peu chez les développeurs indés. Je l'évoquais tout à l'heure, Youpip Psycho par exemple, c'est un jeu en pixel art avec une ambiance incroyable, et le pixel art peut permettre de pas être trop rebuté par ce qu'on voit, par exemple. Donc c'est encore un autre angle d'approche.
Super, merci.
Du coup, merci beaucoup pour cet entretien, c'était super intéressant. Il y avait plein de trucs que je me notais un peu, notamment sur la question du réalisme. Parce que perso, dans la très petite production indé, typiquement sur Itch.io, etc., je vois beaucoup
Comment dire ça, je vois beaucoup de vagues qui de petits jeux qui cassent complètement avec avec le réalisme, que ce soit le pixel art comme ce que tu as évoqué, mais aussi par exemple il y a cette vague de jeux qui reprennent une esthétique un peu PS1 avec de la 3D mais avec des gros pixels et des textures très simplifiées, etc. Ça a été pas mal poussé par le projet du Haunted PS1 d'Imodis.
Haunted PS1, ouais.
Ouais. Et ça a l'air de pas mal confirmer, en fait, tout ce que tu dis sur le fait qu'il y a que le réalisme, c'est un petit peu parfois un mirage, et qu'il y a beaucoup d'autres choses qui marchent et qui marchent encore aujourd'hui. C'est pour savoir si tu avais suivi aussi un peu tout ça, et si t'avais un peu intégré ça dans tes réflexions. Voilà.
Ah, oui, c'est quelque chose que je suis. C'est vrai que c'est une scène qui est très intéressante. Alors le problème, on en parlait quand on préparait l'émission, mais le problème c'est que si je commence à aller mettre le nez dans les productions Itch.io, j'en sortirai jamais. C'est-à-dire que j'aurai jamais assez de temps et de nuit pour jouer dans le noir, moi non plus. Alors donc je surveille ça, et effectivement, Haunted PS1, il y a des choses très intéressantes qui ressortent, et ça montre effectivement que les mécanismes de l'horreur, ça va reposer sur des choses qui ne relèvent pas forcément uniquement de la présentation aussi réaliste soit-elle. Et moi je suis curieux. Alors d'ailleurs, enfin, je veux dire, je suis curieux de voir comment ça peut évoluer, sachant qu'on a déjà, malgré tout, des jeux qui vont maintenant commencer à imiter l'esthétique PS2. C'est des choses qu'on commence à voir. Je pense à un jeu qui s'appelle Colina, par exemple, qui est un jeu d'horreur intéressant, pas incroyable, mais par contre qui a vraiment tous les défauts de jeu PS2, mais on sent que c'est recherché, c'est volontaire, que ça soit dans les rendus, les textures, les couleurs, bon, alors un peu le gameplay aussi, donc ça c'est plus problématique, mais voilà, c'est quelque chose qui moi c'est entre guillemets ma théorie, c'est que à partir du moment, c'est ce que j'évoquais un peu tout à l'heure, à partir du moment où on est capable d'avoir le recul sur les jeux qu'on voit en intégrant que finalement du gros pixel, de la 3D PS1, c'est une esthétique de la même manière que, et c'est une manière de produire des images, on peut avoir la distance nécessaire pour s'impliquer dedans quoi qu'il arrive, de la même manière que si on regarde du cinéma d'animation, ben on peut être tout autant ému par quelque chose avec des marionnettes, que de la pâte à modeler, que du dessin animé, que de la 3D, et finalement l'émotion elle vient pas de la technique en tant que telle, même si ben, effectivement en 3D hyper réaliste on fera des trucs, peut-être des marionnettes n'arriveront pas à faire, mais on jouera pas avec les mêmes cordes en fait, tout simplement.
Eh bien, merci beaucoup Guillaume pour cet entretien, et sans transition on passe à ma chronique. Salut, ce soir on va parler du AAA et du peuple. Mais bon, on enregistre le lendemain du premier tour, et je crois qu'on est beaucoup autour de la table à se réveiller avec une sacrée gueule de bois. Eh ben, faisons un petit tour sous les tropiques, celle de Far Cry 6, pour parler de révolution. Mais justement, comment Far Cry 6 parle-t-il de révolution? Dans un article nommé « Revolution Without Community », Grace Benfell décrit côte à côte la révolution qui se déploie dans la superproduction d'Ubisoft et « I Am Cuba », film désormais culte sur la révolution cubaine. Le film, grosse prod réalisé conjointement par l'URSS et Cuba, s'étend longuement sur la construction du mouvement révolutionnaire, les étudiants qui tractent, qui expliquent pourquoi il faut se mobiliser, se révolter contre l'exploitation. Il montre comme le mouvement est parti du peuple, comme il a dû se constituer avec lui, en l'armant pour se révolter, et en même temps en prenant en compte ses intérêts et ses aspirations. Dans le jeu, vous devrez convaincre quelques personnalités de vous suivre, d'anciens révolutionnaires, un rappeur, des leaders étudiants. Il ne s'agit pas spécialement de leur donner une place, vous devez juste leur rendre quelques services perso pour qu'ils vous fassent confiance et mettent leurs moyens et leurs combats à votre service. Il y a très clairement une grosse couche de propagande dans I Am Cuba, ça je le nie pas. Mais ce qu'on voit en miroir, c'est que Far Cry 6 ne présente jamais la révolution comme le regroupement d'un peuple se battant pour ses intérêts. Ce sont des factions qui se mettent à vos ordres pour renverser un pouvoir et en instituer un autre. Dans sa dernière vidéo, Ash Bomberguy revenait sur Deus Ex Human Revolution, le reboot de Deus Ex qui racontait l'arrivée des implants cybernétiques. Il y note comme le jeu évoque les conséquences que ces changements peuvent avoir sur les plus pauvres. Certains sont devenus dépendants de ces implants, notamment les personnes handicapées, et dépendantes du coup du monopole d'une entreprise privée sur ce qui est désormais une partie de leur corps, la capacité de cette entreprise à monter arbitrairement le prix des soins ou imposer des changements à ces technologies. Est-ce que c'est ce sujet profond et passionnant qui motive le conflit au cœur du jeu? Non. C'est juste mentionné en coup de vent dans 3 documents et une quête annexe. Les méchants sont des fondamentalistes religieux qui sont pas contents parce qu'on viole la sainteté du corps. Ainsi, tout ce conflit n'évoque pas une seconde les conséquences de l'arrivée des implants sur la population, ni même de quel genre de motivation ça pourrait créer chez certains qui mèneraient à l'adhésion à ces discours conservateurs, réactionnaires. Il invente juste deux factions avec des idéologies opposées, sans trop savoir pourquoi les gens y adhèrent, et il les fait s'affronter. Cyberpunk 2077 parle de révolte contre le système. Le système, c'est un peu tout, et vous êtes très très énervé contre tout. Vous devenez même la réincarnation d'un rocker très très énervé qui va aller tout casser tout seul si vous le voulez. On ne voit jamais ce que le système fait de mal, hein. On multiplie les signes de décadence et de corruption morale, on nous montre qu'il y a toujours des gagnants et des perdants, on nous montre parfois les perdants. Mais Cyberpunk est un jeu qui déteste ces losers, ces putes, ces cams et ces pauvres. Je me rappelle d'une scène, il y a un groupe de SDF qui s'est retrouvé par hasard en possession d'un objet de quête. Quand vous vous approchez, étant des losers efféminés, ils sont pris de terreur devant votre masculinité puissante de winner avec des gros implants et des gros flingues, et ils partent dans un dialogue ridiculement long, implorant votre pitié. Vous pouvez attendre qu'ils finissent, mais on vous pousse clairement à les tuer pour récupérer l'objet sur leur cadavre fumant en interrompant le dialogue. C'est pour ça que dans Cyberpunk, il n'est jamais question d'unir les laissés pour compte du système pour se révolter, parce qu'en vrai, on adhère complètement à cette idée que ce sont des losers, des rebuts, et que la révolte, elle viendra de vous, tout seul, le grand homme. Ce qui est absent de Cyberpunk, c'est l'idée d'exploitation. Les riches sont juste riches, les pauvres sont juste pauvres. Il n'y a pas de grande raison à ça, c'est juste leur faute. On rejette ça sur de la responsabilité individuelle. Il n'y a pas, je sais pas, un appareil économique qui maintient une partie de la population dans la pauvreté pour la mobiliser comme main-d'œuvre pas chère et se faire des richesses sur son dos. Et bon, chaque récit de jeu vidéo peut pas être gauchiste, j'en suis bien consciente. Mais du coup, Cyberpunk veut quand même très fort critiquer le système. Mais il le fait juste parce que critiquer le système, c'est cool, et c'est ça que fait le cyberpunk. Il n'a aucune raison particulière, personnelle, de le faire. Il ne voit pas d'injustice dans cette exploitation. Il n'a rien à lui reprocher, il pense même comme ce système. Alors, il multiplie de façon presque ridicule des signes extérieurs que le système est mauvais, un ensemble de signes qui restent à la surface. Et c'est exactement le même fonctionnement dans Deus Ex, Far Cry 6 et une bonne partie du AAA aujourd'hui. On crée un conflit parce qu'on a besoin d'un conflit, mais on n'y croit pas. C'est un conflit où l'on s'oppose à des signes du mal, des signes de totalitarisme ou d'inégalité, quand on se soucie un peu de faire de gauche, de décadence morale et de corruption de mœurs sinon. On est dans une vision libérale, marchandisée de l'idéologie. Vous voyez, c'est ce truc d'avoir le choix entre plusieurs factions, plusieurs idéologies. L'une va être rouge et belliqueuse, l'autre bleue et pleine d'entraide, la dernière jaune et dans l'intelligence. On les choisit comme un assaisonnement de son expérience de jeu, et pas pour les conséquences politiques. On peut choisir comme ça entre nazisme, néolibéralisme et communisme. La politique, moins la conscience politique. On ne se soucie jamais trop de ce que vivent les gens, de pourquoi ils adhèrent à telle ou telle idéologie. Ça peut aller dans un sens comme un autre. On peut parler d'un groupe fasciste et déconstruire pourquoi ses membres se rabattent sur ses idées réactionnaires, ou fustiger des révolutionnaires idéalistes et encenser les gentils travailleurs qui sont raisonnables, font des compromis et votent Macron. Mais là, c'est jamais ça. La foule n'est jamais mobilisée comme un peuple ou comme des classes réunies dans une conscience politique. Elle est mobilisée comme des masses, informes, rassemblées, mises en mouvement par une idéologie quelle qu'elle soit. C'est ni des récits qui visent à justifier un statu quo, ni des récits qui visent à le changer. Ils n'ont pas l'intention d'exprimer quelque chose, au contraire, ils travaillent constamment pour miner leur propre signification, parce qu'ils y croient pas vraiment. Ils dépolitisent un peu ce qu'il se passe, ils le réduisent à des signes superficiels. Regardez par exemple l'idée de révolution, comment elle se dépolitise, comment elle glisse doucement d'un mouvement de révolte collectif à une bataille rangée entre des factions, à une révolte individuelle dans Cyberpunk. En dépolitisant tout, on protège le statu quo, cette fois pas en le justifiant, mais en détruisant l'imagination. Il reste un conflit dans ces récits, et ils ont des dimensions politiques. Mais quoi qu'ils disent en surface, je pense qu'ils ont aussi une dimension anti-politique, une dimension qui travaille contre la formation de toute conscience politique collective. On semble complètement sorti de la vieille idée de représentation. Vous savez que l'art est une façon pour l'autoriste de représenter ce qu'elle pense. Même au sein des groupes, on n'a plus l'ensemble qui représente chacun des membres. L'ensemble semble avoir une vie toute seule. Il y a cette impression qu'il y a un truc qui est brisé dans la représentation, et c'est un peu cette question-là de la représentation que j'aimerais explorer dans les trois dernières chroniques de cette année.
Comme d'habitude, c'est vraiment super passionnant prendre des sujets qui nous concernent tous et arriver à les lier aux jeux vidéo de cette manière, c'est vraiment trop bien. Je te rejoins tout à fait sur Cyberpunk, qui est Un jeu qui a énormément de défauts, aussi énormément de qualités, mais qui m'a énormément déçu sur cet aspect-là, parce que j'avoue, je l'attendais un peu. Je trouve que le jeu en fait pas tant que ça sur finalement, alors qu'il a il a vraiment un potentiel de critique assez énorme. Et comme tu dis, le côté ah, c'est juste pour faire un peu cool d'être rebelle, c'est souvent le cas. Il y a quelques moments où je trouve que c'est un peu différent, ils y arrivent un peu, mais dans la majorité des cas, je suis totalement d'accord, c'est trop simple et c'est surtout, c'est pas assez. Moi, je voulais juste te poser une petite question. Est-ce que du coup, tu penses que le jeu vidéo indé s'approprie plus les luttes politiques? Un peu, je pense notamment à Disco Elysium, qui a notamment, lors de sa remise des prix des Game Awards, a cité Marx, je crois, il me semble. Même si c'est pas tout à fait dans les mêmes proportions, mais on sent que c'est pas un triple A peut-être qui ferait ça. Je sais pas ce que t'en penses.
Alors, je pense que ça dépend beaucoup, parce que derrière le, comment dire ça, derrière le jeu indé, il y a beaucoup de trucs différents, en fait. Enfin, voilà, entre un studio de presque 50 personnes aux États-Unis et voilà, Disco Elysium qui a été fait par 4 personnes au fin fond de nulle part, pas du tout, en vrai. Il me semble que c'est sorti d'une maison de créateurs, etc., mais je vais pas dire de bêtises. Mais voilà, il y a plein de contextes différents, et je trouve que c'est une appellation très large, et voilà. Donc je pense que dans le jeu AD, il y a des trucs qui s'inspirent au final beaucoup, qui reprennent beaucoup du AAA, et qui le font un petit budget, et ça peut être très bien, mais du coup on retrouve un peu ces mêmes dynamiques. Typiquement, Disco Elysium, je trouve que c'est un très, très bon exemple, parce que il y a déjà eu des trucs assez intéressants écrits universitaires que j'avais lu là-dessus, mais oui, des analyses assez intéressantes, mais oui, même en termes de jeux vidéo, en termes de réflexion sur les factions, etc., dont je parlais, il reprend un peu ça, et en même temps, il reprend tous les systèmes d'expérience un petit peu, et il les subvertit et il les utilise pour passer des messages différents et décrire la réalité d'une façon un peu différente, et il se les réapproprie beaucoup et au final ça sert aussi à intégrer un peu toutes les thématiques sociales qu'il veut intégrer. Donc c'était tellement un truc un peu énorme, Disco Elysium, que j'ai même pas encore de grands trucs à dire dessus, mais ouais, je trouve que c'est un très bon exemple de jeu qui est super intéressant là-dessus, et qui prend vraiment une vision complètement opposée de ce qu'on a retenu, par rapport à ce qu'on a retenu du jeu de rôle, et comment on l'a réinterprété dans le AAA et dans le jeu vidéo récent.
D'accord, c'est à peu près ce que je pense aussi, merci. Et pour info, le studio de Disco Elysium, il est estonien, c'est ZOM/UM, et c'est un studio estonien, voilà.
Justement, c'est quelque chose qui peut éclairer aussi la dimension politique du jeu, c'est que c'est pas simplement, entre guillemets, un studio de jeux vidéo, c'est un collectif d'artistes avec des poètes, musiciens, plasticiens, et qui ont fini par dire, et si on développait un jeu vidéo, ce qui explique aussi la teneur du jeu et leur approche, c'est-à-dire qu'ils étaient allés avant tout pour raconter quelque chose, quoi.
Et pour conclure cette émission, je laisse la parole à Jean pour son blind test sur les jeux d'enquête. À toi, Jean.
En effet, donc la thématique du blind test, les jeux d'enquête, 5 extraits. Je vais pas donner les dates, contrairement à ce qu'on fait souvent, parce que ça serait vraiment trop facile. C'est quand même des jeux, je pense, un petit peu connus. En plus, globalement, on est quand même sur des jeux assez récents. Donc voilà, pas d'indices. Je pense que vous devriez trouver. Préparez-vous. C'est parti pour le premier extrait.
C'est dans Deus Ex ?
Non. C'est si dur que ça, flûte, mince. Peut-être que vous l'avez pas fait aussi.
Peut-être la date ?
C'était sorti en 2019.
Disco Elysium ?
Non.
C'est un jeu qui se passe dans l'espace, non ?
Non plus.
En 2019, qu'est-ce qu'il y a eu en 2019 ?
Oh là là.
La musique me dit vraiment quelque chose, mais impossible de mettre un nom sur un jeu.
Ça sera sans moi.
Donc, j'ai dit que ça allait être facile, ça commence bien, je suis désolé. Du coup, il s'agissait d'un extrait de l'OST de Nightcall.
Ah,
Netcall.
Oh là là, mais je l'ai fait.
Voilà, le petit jeu narratif français sorti en 2019, donc, dans lequel on incarne un chauffeur de taxi parisien qui mène l'enquête pour retrouver un tueur en série. Donc je pense que certains ou certaines d'entre vous l'ont fait, c'est très joli, c'est ambiance film noir un petit peu, surtout c'est très bien écrit, et donc si jamais vous n'y êtes pas essayé, je le conseille chaudement, surtout pour ces dialogues qui sont vraiment remarquables, à mon sens. Bon, deuxième extrait, à mon avis ça devrait être plus facile, je pense, quand même. Ah merde, sérieusement?
C'est Sherlock Holmes?
Non.
Ouais, un jeu Sherlock Holmes. Ok.
Ah merde.
Oh là là.
Je me suis hyper mal débrouillé en fait, je suis désolé.
Attends, ça me dit un truc de ouf.
C'est les enquêtes dans Pirates des Caraïbes.
Non.
Ça me fait trop penser aux musiques de The Great Ace Attorney, mais je sais que c'est pas ça.
Oh, c'est pas ça, ouais.
Ça me rend fou.
Ça peut pas être des jeux japonais avec Jean.
Exactement.
Ah donc ok.
Un Sherlock Holmes quelconque, mais...
Non. Je suis navré, mince. Et pour le coup, là, bon, je pense que vous allez crier quand vous allez l'entendre. C'était un extrait de la bande-son de The Return of the Obra Dinn.
Mais oui.
Sorti en 2018, l'œuvre de Lucas Pope, qui s'était déjà fait connaître pour Papers, Please. Et donc, dans Return of the Obra Dinn, on joue un expert en assurance au début du 19e siècle qui est chargé d'inspecter le Obra Dinn, donc un navire de la Compagnie des Indes qui s'était perdu en mer et qui a fini par refaire surface mystérieusement avec tout son équipage disparu. Et on doit donc mener l'enquête sur le bateau pour comprendre ce qui s'est passé. C'est un jeu d'énigmes assez inhabituel, mais vraiment génial. Et si jamais, voilà, vous... que ce soit nos auditeurs ou vous, si jamais vous l'avez pas fait, franchement, allez-y, c'est top, et en plus, c'est très beau. Et les musiques sont cool.
C'est un jeu incroyable.
Donc, troisième extrait, c'est parti. C'est sorti en 2015.
Sorti en 2015.
Alors là,
je sais pas, Kentucky Road Zero, mais c'est pas
non,
ça.
Non, oh là, en fait, j'ai vraiment fait un truc trop dur. Je suis vraiment désolé. C'est tiré de Her Story. Donc le jeu de Sam Barlow,
oui,
sorti en 2015.
Et c'est la musique qu'elle chante dans le jeu, non?
Voilà, en fait, c'est ça. Pour celles et ceux qui ne voient pas, Her Story, c'est un jeu d'enquête un peu particulier, puisqu'il s'agit de résoudre une affaire de meurtre à partir d'extraits vidéo tirés de séances d'interrogatoire de police. Et là, il s'agit de l'extrait durant lequel la jeune femme qui est interrogée interprète un morceau à la guitare. Et c'est un morceau qui est une variante d'une ballade traditionnelle qui raconte l'histoire de deux sœurs dont l'une assassine l'autre. Et ce qui n'est pas anodin par rapport à l'intrigue du jeu. Mais bref, du coup, c'est vrai que Je pensais que ça... Moi, ce passage m'avait pas mal marqué quand j'avais fait le jeu. Du coup, je m'étais dit que ça allait peut-être évoquer chez vous. Je suis vraiment désolé, c'est le blind test de la mort. C'est horrible.
Non, mais... Pareil, je le vois très bien, mais je suis juste nul. J'avais aucun souvenir, mais...
Donc, quatrième extrait. Cette fois-ci, je pense vraiment que celui-ci, vous allez le trouver. En tout cas, je l'espère, parce que sinon, ça sera vraiment... Je crois qu'on n'a jamais fait de blind test où personne n'a rien trouvé. Et je m'en voudrais d'avoir fait le premier. C'est parti.
Ah, je connais ça.
Oh mais oui.
Par pitié, trouvez,
oh,
je vous en supplie.
C'est dans ma playlist.
Pareil. Ah non.
C'est dans Disco Elysium.
Oui, merci. Bravo.
Bon, d'accord.
L'honneur est sauf.
En effet, c'est bien Disco Elysium, et plus précisément, c'est la musique qu'on entend lorsqu'on traverse le bar du motel où réside notre personnage.
Mais oui.
Disco Elysium, donc le jeu qu'on évoquait rapidement tout à l'heure, qui est sorti en 2019 et qui a été développé par le studio britannique Zaum. Et il est défini par ses créateurs et créatrices comme un détective RPG, et c'est un titre absolument remarquable pour sa direction artistique et sa bande-son, mais surtout, à mon sens, pour son écriture, puisque l'univers du jeu est d'une richesse absolument incroyable, et les dialogues sont vraiment dingues. Donc voilà, pour celles et ceux qui n'ont pas fait, même recommandation pour les jeux précédents, n'hésitez pas à essayer. Voilà. Donc dernier extrait là, si jamais déjà les extraits précédents c'était compliqué, là ça va vraiment pas être simple. J'expliquerai ensuite pourquoi. Si vous n'avez pas le jeu exact, je vous en voudrais pas. Mais si vous avez simplement l'intitulé de la série dont il est tiré, parce qu'il s'agit d'une série, je compterai ça comme une bonne réponse. Et petit indice, ça me semble important, le jeu est sorti en 96.
Ça me dit trop quelque chose, la musique.
Voilà, série de jeux d'enquête des années 90.
Sam & Max, c'était trop...
Non, pas Sam & Max, non.
Grim Fandango.
Non, ça aurait pu, mais non, j'avais déjà fait Grim Fandango dans le précédent, donc j'allais pas le remettre. Mais ça aurait pu.
Ça me dit de ouf un truc, non. Ça me rend fou. Tout le blind test était ça.
Spy Fox.
Non.
C'est les... Chevalier de Baphomet, non.
Non. Pour le coup, celui-ci, je m'attendais à ce que ça passe pas. Enfin, en tout cas, à ce que ce soit compliqué. Je suis navré, je pensais qu'il y aurait eu plus de facilité sur les précédents. Là, il s'agit d'un morceau de la bande-son de The Pandora Directive, qui est un épisode de la série des Tex Murphy, qui sont de vieux jeux d'enquête des années 90, dans lesquels on incarne le dit Tex Murphy, qui est un détective privé, qui doit résoudre diverses affaires dans une San Francisco du futur. Alors moi-même, je me souviens absolument pas de l'intrigue du jeu, mais en fait, j'ai une tendresse particulière pour ce titre, parce que je regardais mon père y jouer quand j'étais gamin, et j'ai un souvenir marquant de son doublage français et de ses mauvaises FMV, comme ça se faisait beaucoup dans les années 90. Et du coup, voilà, c'était un peu le... Ça se voulait être une sorte de point bonus à la fin du blind test, finalement, ça a été... Ça a juste été dans la continuité des précédents extraits, donc je suis...
Le clou sur le cercueil. Ouais.
Je suis vraiment navré, du coup, c'était pas très amusant, je m'en veux beaucoup.
Non, mais il y a eu beaucoup de bons jeux, donc tout est pardonné.
Bon, ben, je t'en remercie.
Merci, Jean. Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission réalisée par l'association Pixel Up, diffusée sur Radio Campus Paris, et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. Nous remercions Guillaume Béchelier pour cet entretien passionnant et d'avoir été avec nous pendant toute l'émission. On remercie tous nos chroniqueurs et on se quitte en douceur sur Life is Beautiful de Ryu Kinugasa, de l'OST de Deadly Premonition.